France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de Questions politiques. Je suis ravie d'être avec vous pour ce rendez-vous du dimanche que vous propose France Inter, France Info, la télévision. Vous nous regardez sur le canal 16 et le quotidien Le Monde. Les mois qui viennent seront sans nul doute étonnants, passionnants, avec pour horizon le scrutin de 2027. Alors nous avons une heure devant nous pour poser aux grands acteurs de la vie politique les questions urgentes, structurantes. Et nous sommes justement à un moment clé pour le pays. Tombera pas le gouvernement Bayrou? Revoilà la France dans l'expectative, 9 mois à peine après le départ de Michel Barnier. La décision de demander la confiance est-elle un coup de poker raté pour le Premier ministre? Comment sortir de cette impasse et faire avancer le pays? Des textes importants sont aujourd'hui sur pause, comme ceux que porte notre invité. Alors lui aussi a été à Matignon, c'était le Premier ministre socialiste de François Hollande et on l'a vu revenir. Une des surprises de ce gouvernement Bayrou, avec le portefeuille des Outre-mer, comment notre invité analyse-t-il la situation? Est-il déjà en train de faire ses cartons? Manuel Valls est dans Questions politiques, en direct et jusqu'à 13h.
France Inter, Questions politiques, Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Manuel Valls et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci de votre invitation.
À mes côtés pour vous interviewer, Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour à toutes et tous.
Et Alix Bouillaguet de France Télévisions. Hello Alix.
Bonjour à tous.
Manuel Valls, vous êtes ministre d'État dans un gouvernement en sursis. 6 Français sur 10 sont satisfaits que François Bayrou demande la confiance. Ça, c'est le sondage Odoxa publié hier par le Figaro. Mais justement, 7 sur 10 ne la donneraient pas, cette confiance. Et du côté des partis, LFI, le PS, les écologistes, les communistes et le Rassemblement national semblent également déterminés à faire tomber le gouvernement. Alors Manuel Valls, la chute est-elle inéluctable ?
Je n'en sais rien, c'est possible au vu des prises de position que vous avez rappelées et des comptes que l'on peut faire à l'Assemblée nationale. Mais je rajoute une autre question, si vous le permettez, à la vôtre. Voulons-nous d'un suicide collectif ?
C'est ça que ça serait ?
Oui, voulons-nous d'un suicide collectif, pas pour le gouvernement, mais pour le pays. Pensons-nous que si nous continuons ainsi à ne pas nous parler, je parle des forces politiques, qui composent l'Assemblée nationale et le Sénat. Si nous n'arrivons pas à négocier et à trouver les compromis nécessaires, notamment pour la loi de finances, il n'y a pas d'autre solution qu'un compromis, puisque personne n'a la majorité absolue. Pensons-nous qu'il faut des élections anticipées, législatives, une dissolution, bref, qui amènerait incontestablement le Rassemblement national à un niveau jamais atteint et peut-être même à la majorité absolue? Ça, je ne le veux pas. Et donc, de toutes mes forces, j'appelle tout le monde à se ressaisir et à trouver la voie du dialogue et du compromis. Il n'y a pas d'autre solution.
Suicide collectif, c'est quand même très fort. Manuel Valls, la personne qui a employé ce ton très alarmant cette semaine, c'est François Bayrou. On n'a pas l'impression que la méthode ait très bien marché.
Mais François Bayrou a une autre idée, je crois, de l'État. Il est Premier ministre et il sait que la situation financière, situation des comptes publics et de la dette est particulièrement dangereuse. Donc il en appelle d'une certaine manière, et trouvons une vertu à ce qu'il a annoncé tout de même. Cela oblige tout le monde à réfléchir et à trouver cette solution. Mais oui, quand je parle de suicide collectif, c'est parce que, vous savez, il y a le fameux dilemme du prisonnier. Tout le monde veut discuter, tout le monde veut s'en sortir, mais les intérêts de chacun, en l'occurrence de chaque formation politique, vont contre l'idée de trouver un chemin et un accord. Or, si nous ne nous rassemblons pas, qu'est-ce qui va se passer ? Si nous ne coopérons pas par agir, eh bien, ce sera le Rassemblement national qui accédera au pouvoir après les élections législatives. Et peut-être pire, parce qu'on voit bien qu'on peut très vite rentrer dans une crise de régime. Pourquoi je ne veux pas du Rassemblement national ? Parce que je ne crois pas à son programme économique, qui me paraît être dangereux pour le pays. Je pense qu'il provoquerait des tensions dont le pays aujourd'hui n'a pas besoin. Et en plus, sa vision, parce que au moment où nous discutons, où vous m'interrogez, vous le savez parfaitement, il y a une situation géopolitique extrêmement périlleuse. Il y a la guerre en Ukraine et les positions du Rassemblement national sur ce sujet-là sont une véritable soumission à la vision du monde et de l'Europe de Vladimir Poutine. Donc, il faut éviter cela à tout prix. Et donc, pour cela, il faut trouver, encore une fois, les voies d'un accord. Et donc que
d'un accord avec François Bayrou, c'est-à-dire, il est en train de se démultiplier. Ce soir, il sera sur 4 chaînes d'information continue, dans France Télévisions. Que peut-il dire pour arriver à un compromis? Est-il encore audible?
Il faut qu'il trouve les mots, comme chacun d'entre nous, puisqu'il faut se rassembler face à une situation qui est grave. Accepter le compromis, renoncer à l'hégémonie politique, intellectuelle et parlementaire, qui est impossible. Parce que quand j'entends les responsables politiques, ils donnent le sentiment que à eux tout seuls, ils sont majoritaires. Et que demain, ils seraient majoritaires tout seuls. Les seuls qui peuvent être peut-être majoritaires tout seuls, les sondages le démontrent, c'est le Rassemblement national.
Manuel
Valls,
que pourrait-il mettre...
Ce sont les parlementaires du Rassemblement national.
Que pourrait-il mettre sur la table pour arriver à un compromis? A-t-il encore la marge pour mettre quelque chose sur la table? Il a présenté un plan le 15 juillet qui a été qualifié de musée des horreurs par certains. Il a encore dit qu'il s'attachait à ce chiffre d'effort de 44 milliards. Que peut-il mettre sur la table pour emporter un compromis?
Mais d'abord, il faut rappeler que cet effort de 44 milliards est nécessaire. Il faut rappeler que la charge de la dette est de 66 milliards aujourd'hui et que dans les années qui viennent, ça va monter à plus de 100 milliards. Donc c'est pratiquement le premier poste budgétaire.
Ça ne vous paraît pas négociable?
Mais ça, tout est négociable. Je pense que lui, il part du principe qu'il y a quelque chose qui sans doute n'est pas négociable, c'est la réalité. C'est-à-dire la réalité, elle est là. La dette, la charge de la dette, des déficits publics qui sont à 6%, donc il faut aller vers le compromis, trouver les solutions avec l'ensemble des formations politiques qui acceptent de discuter, c'est-à-dire, pour aller vite, du Parti Socialiste aux Républicains. Je pense que cet espace-là, il est possible. Permettez-moi de vous donner un exemple ou deux exemples concrets. Nous étions à Autun, dans le cadre de l'université d'été du laboratoire de la République, présidé par Jean-Michel Blanquer. Il y a eu des débats entre Valérie Pécresse et moi, entre Bernard Cazeneuve et Édouard Philippe, entre Bruno Retailleau et Jérôme Guedj. On peut se parler au MEDEF, jeudi dernier. Il y avait un débat avec l'ensemble des leaders politiques. Je ne dis pas qu'ils étaient d'accord sur tout. Je ne voudrais pas, évidemment, laisser croire cela. Mais tout le monde est capable de se parler, d'essayer de trouver des solutions. Parce qu'au fond...
Visiblement, c'est très difficile en ce moment.
Je le sais bien, mais si on est profondément patriote, si on croit dans ce pays, nous savons qu'il n'y a pas d'autre solution. D'une certaine manière, il faut le saluer. Le geste de François Bayrou, ce qu'il propose, ce vote de confiance, peut-être va-t-il permettre à chacun une prise de conscience. J'aimerais que cette prise de conscience et cette volonté d'aboutir à un accord se fassent d'ici le 8. Mais en tout état de cause, avec la loi de finances, nous n'avons pas d'autre solution que de trouver un accord. Donc, il y a, je crois, me semble-t-il, notamment avec les socialistes, il y a, je l'espère, un espace, une voie du dialogue possible. En tout cas, moi, je ne me résigne pas. Pas pour moi. Pas pour le gouvernement actuel, mais tout simplement pour le pays.
Si on fait des mathématiques parlementaires, Manuel Valls, est-ce que la survie de ce gouvernement tient, comme l'été dernier, finalement, à l'accord de non-censure, à un accord de non-censure avec les socialistes?
Oui, mais ça, vous parlez évidemment du débat budgétaire. D'ailleurs, peut-être le problème de ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a 10 juin le vote de confiance que demande François Bayrou, même s'il le fait à partir de la recherche d'un accord sur le diagnostic du débat lui-même sur le budget, sur les compromis possibles au moment du budget. Donc,
Olivier Faure vient de redire qu'il ne voterait pas la confiance.
J'ai bien compris que chacun est depuis le début sur les positions. Mais comme le Premier ministre va rencontrer les groupes parlementaires d'ici à jeudi ou vendredi, qu'il va s'exprimer en fin d'après-midi, j'espère que les uns et les autres trouveront les mots et le sens de la responsabilité pour éviter cela au pays. Et si le 8, les choses sont confirmées, de toute façon, il faudra continuer à discuter et à trouver les voies de chemin. Parce que si ça n'est pas cela, si ça n'est pas cela, parce que c'est, je ne suis ni pessimiste ni optimiste, mais si ça n'est pas cela, alors nous irons vers une crise politique lourde, une crise de régime et l'avènement du Rassemblement national. Il faut que chacun, il ne s'agit pas de faire peur pour faire peur, et puis moi je respecte tous les électeurs, mais c'est ça la réalité. Nous sommes à un de ces moments, moi j'ai ce sentiment, je l'éprouve, dans ces moments historiques où tout peut basculer. Le monde est déjà en train de basculer avec la guerre en Ukraine.
Et visiblement, le Rassemblement national, pour vous, est un épouvantail. On va passer une question François Stressos.
Et les changements impulsés par Donald Trump, mais nous voyons bien que nous-mêmes, nous avons une crise démocratique comme les grandes démocraties occidentales, mais nous avons une crise particulière, une crise française, et ce n'est pas en provoquant des élections législatives et en étant incapable de trouver une solution, donc une forme d'unité, chacun respectant les positions des uns
et des autres. Ce ne sont pas les Français ni les partis qui ont mis le pays dans cette situation-là, c'est François Bayrou. François Stressos.
Alors, à l'heure actuelle, le PS non seulement ne veut pas voter la confiance, mais il dit « on est candidat pour Matignon ». Est-ce que vous, Manuel Valls, vous pourriez être le ministre d'un Premier ministre qui s'appellerait Olivier Faure ?
Si on cherchait les conditions d'une unité, tout est possible dans ce bas monde. Mais je pense que le problème n'est pas celui des personnes. Et n'est pas celui de la composition ou du gouvernement, même si je sais que c'est important. Mais essayons de serrer les choses. Est-ce qu'il y a des pistes intéressantes dans ce que le Parti Socialiste a proposé hier en termes
son projet de budget.
Alors, moi je dois dire la vérité parce que je regarde les choses avec respect. La plupart des économies qui sont proposées par les socialistes sont déjà prévues. Je pense aux 3 milliards concernant l'assurance maladie. Elles sont parfois trop peu précises ou surestimées. Mais là, c'est un débat. 70% de l'effort qui est demandé passe par ce qu'ils appellent, par ce qu'on appelle la mise en place de la taxe Sukman qui, dans un premier temps, rapportera...
La taxe sur les ultra-riches.
Sur les ultra-riches qui rapportera peu, mais je vais y venir parce qu'il faudra renégocier, puisque c'est une assiette mondiale, toutes les conventions fiscales. Et puis, il y en a beaucoup sur la fiscalité. Donc, il faut faire attention aussi à la soutenabilité pour nos entreprises. Mais, il y a des pistes intéressantes à retenir. Il y a forcément, c'est une piste, il y a déjà la contribution Barnier sur les plus grandes fortunes, sur les plus riches, comme on dit. Oui, moi, je suis favorable à ce qu'on... les plus fortunés, notamment à travers le patrimoine, tant qu'on ne touche pas à l'outil de production, soit davantage mise à contribution, parce qu'on a besoin d'une solidarité, on a besoin d'un effort. Et vous savez, dans ce pays, il y a quelque chose qui est fondamental. Il y a une passion pour l'égalité, il y a une passion pour la justice sociale. Donc, il faut être capable d'y répondre.
Mais ça, c'est du symbole. C'est pas grâce à ça qu'on va combler le déficit.
Mais dans les chiffres proposés par le Parti Socialiste, on est largement au-dessus des 10 milliards. Il faut faire encore une fois attention à la soutenabilité. Mais c'est une piste qui, évidemment, il faut travailler.
Une question d'Alix Bouyagué.
Deuxièmement, il y a la conditionnalité sociale et environnementale pour les entreprises. Là, je crois aussi que c'est une autre piste intéressante. Et enfin, il y a la question des retraites. Autant je pense que le retour à la retraite à 62 n'est pas soutenable d'un point de vue financier, il me semble qu'on peut avancer sur les pistes esquissées, notamment par la CFDT.
Alix. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des marges de manœuvre. On sent quelques pistes. Est-ce que, par exemple, les jours fériés, François Bayrou pourrait dire « Ok, je laisse tomber ».
Mais le Premier ministre a dit que tout était sur la table et que tout était négociable. Donc ça aussi, c'est forcément négociable. Je n'ai pas senti, on va dire les choses d'une autre manière, un immense enthousiasme sur cette proposition. Mais mettons-nous d'accord sur quelque chose. Dans cette situation très difficile de nos finances publiques et sociales, rien ne sera facile. Il ne faut pas expliquer aux Français, quelle que soit leur situation, que cela va être facile. Mais il me semble que sur l'imposition sur les plus hautes fortunes, sur la conditionnalité sociale et environnementale pour les entreprises, sur les
conditionnalité,
retraites...
c'est pour les aides, n'est-ce pas ?
Absolument. Mmh. Et je le vois, y compris pour ce qui concerne les Outre-mer, puisqu'il y a une loi concernant l'économie dans les Outre-mer qui prévoit un certain nombre d'exonérations. Donc là aussi, il faut peut-être regarder de plus près quelle est l'efficacité de ces politiques. On avait eu ce débat quand j'étais Premier ministre à propos du CICE. Mais il faut se mettre autour de la table avec les partenaires sociaux, avec les responsables politiques.
Ce que vous
Donc
dites.
Je pense qu'il y a des possibilités,
il y a des possibilités
de remettre les choses à table. Mais on voit bien que le débat...
Oui, oui. Manuel Valls, vous dites tout est négociable. Mais est-ce que, par exemple, l'enveloppe globale, c'est-à-dire aujourd'hui, François Bayrou dit c'est 44 milliards, les socialistes ils disent c'est moitié moins, et puis le déficit, on ne va pas aller aussi vite, et puis ce ne sera pas 2029, ce sera 2032. Est-ce que ça, c'est négociable ?
En tout cas, il faut faire preuve de responsabilité. Ramener les déficits sur une trajectoire déjà négociée avec la Commission européenne est possible, l'allonger davantage peut poser un certain nombre de problèmes. La réalité des déficits est là. Alors, ça dépend aussi des fruits de la croissance.
Donc, l'enveloppe, on y touche ou on n'y touche pas?
Il y a un débat entre ce qui est proposé par le gouvernement. Je m'aventure, je ne suis pas ministre des Finances et j'ai une grande confiance dans le travail d'Éric Lombard et d'Amélie de Montchalin. Et précisément, le Premier ministre a voulu, je crois, marquer les esprits par ces chiffres qui sont, à mon avis, les plus proches de la réalité. Mais en tout cas, il y a un débat. Ni le gouvernement, ni les socialistes, ni évidemment les autres groupes, notamment ceux qui soutiennent François Bayrou et le gouvernement, ne peuvent dire c'est ça ou rien. Donc il faut trouver encore les bases d'une discussion, d'un accord. Mais pour cela, il faut sortir de l'irrationalité qui peut nous mener dans le mur et au suicide collectif que j'évoquais, et trouver, au fond, les conditions de discussion. Donc il faut se mettre autour de la table. Il n'y a pas d'autre... Il faut le faire intelligemment, discrètement. Il n'y a pas besoin, évidemment, de se mettre en cause.
Est-ce que l'erreur de François Bayrou, ça n'a pas été de se crisper sur ces 44 milliards en disant « on négociera, mais uniquement dans cette enveloppe » Et vous, est-ce que vous ne lui avez pas conseillé, avant l'été, peut-être d'être un peu plus souple, moins rigide ?
Et François Bayrou, depuis des années, et a été peut-être l'un des premiers responsables publics, a évoqué lors des élections présidentielles, notamment de 2002 et de 2007, la question de la dette. Donc, d'une certaine manière, c'est son ADN. Et il a ouvert un autre débat qui me paraît utile et passionnant, qui est celui du report de cette dette sur les prochaines générations. Donc, il est étreint par un très grand esprit de responsabilité. Mais... Si on veut pas seulement faire un geste et dire j'avais raison, alors il faut discuter, il faut négocier.
Il faut peut-être pas dire que tout le monde était en vacances.
Il faut, oh mais ça fait partie de la vie publique. Mais les gens discutent, les gens sont capables de s'appeler, de trouver un chemin. Donc il n'y a pas d'autre chemin. Regardez, lui-même et nous tous avons été très déçus sur le fait qu'il n'y ait pas eu un accord entre le patronat et les syndicats, et notamment les syndicats réformistes comme la CFDT.
Sur les retraites.
Mais on sait qu'on va avancer sur les résultats partiels du conclave des retraites, sur l'amélioration de la situation des carrières hachées, sur les femmes ayant eu des enfants, sur une meilleure prise en compte de la pénibilité. Sur ces sujets-là, on peut avancer. La CFDT a fait preuve d'une grande responsabilité la question de l'âge n'est pas posée là maintenant.
On parlait déjà de ça il y a un an, en disant on va avancer sur les retraites. Ça fait pchit à chaque fois. Vous parlez de suicide collectif, mais qui l'a orchestré, ce suicide collectif ? C'est François Bayrou quand même qui a surpris tout le monde.
D'abord tout ne fait pas pchit à chaque fois, puisqu'il y a des résultats sur les retraites. Donc, il faudra les traduire dans la loi.
Quand vous demandez la confiance, il faut essayer de la construire. C'est Édouard Philippe qui dit
ça. C'est ce que je vous ai dit avec d'autres mots. Pour construire la confiance et pour construire un compromis pour le budget, puisque c'est là dont on parle, c'est l'avenir du pays. Et tout doit être prêt à la mi-octobre. Parce que il faut présenter, nous sommes dans une démocratie, la loi au Parlement. Donc il faut créer les conditions de la confiance. Vous savez, moi je pars du principe qu'il reste encore 8 jours avant le 8 septembre prochain et qu'il reste quelques semaines avant la loi de finances. Donc il n'est pas trop tard pour trouver des solutions. Que puis-je vous dire ?
Je ne suis pas dans la méthode Coué.
Vous avez bien vu que j'en appelle à la responsabilité de tous. Ça concerne aussi bien le gouvernement que les groupes qui soutiennent l'action de François Bayrou, que ceux qui sont dans l'opposition et qui veulent sincèrement trouver une solution. Je ne suis pas en train ni d'insulter, ni de mettre en cause qui que ce soit. Je pense qu'il y a une voie possible à partir de ce qu'on appelle le socle commun, la majorité relative actuelle, avec une partie de la gauche. Je pense que le Rassemblement national a fait le choix de provoquer la crise de régime qui peut l'amener au pouvoir. C'est son choix, c'est ainsi. Et en plus, je suis en désaccord total avec ses valeurs et avec son projet. Et tout le monde sait que la France insoumise a à peu près le même projet, qui est de provoquer le chaos avec la dissolution et même l'idée de la destitution du président de la République. Donc, c'est avec tous les autres qu'il faut trouver un chemin. Si ça n'est pas possible, il faut dire aux Français la vérité. Nous irons à des élections législatives anticipées qui provoqueront d'une manière ou d'une autre la victoire du Rassemblement National.
Donc
il en sera fini d'une certaine idée de la France, en tout cas celle que j'essaie de défendre, celle d'un républicain.
Manuel Valls, en tout cas ce compromis que vous appelez de vos voeux avec une méthode qui serait maintenant plus efficace dans les prochains jours que durant tout l'été, cette méthode c'est difficile, le chemin paraît étroit, trop de rapprochement à gauche fera perdre du soutien à droite. Je vous propose d'écouter le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale. Il était hier au Mont-Mézenc, Laurent Wauquiez.
Nous avons assumé d'être au gouvernement pour arrêter l'extrême gauche. Très bien. Mais les Républicains, mes amis, je le dis ici, ne peuvent pas renoncer à défendre leurs idées et leurs convictions. Les Républicains ne peuvent pas devenir un parti de godillots. Les Républicains ne doivent pas signer un chèque en blanc à François Bayrou en renonçant à nos valeurs et à ce que les Français attendent de nous.
Manuel Valls est notre invité, ministre des Outre-mer du gouvernement Bayrou. Manuel Valls, réaction à ce son de Laurent Wauquiez qu'on vient d'entendre.
J'ai cru comprendre que Bruno Retailleau avait été élu président et assez largement des Républicains, mais je ne veux pas rentrer m'immiscer dans la vie interne de cette formation qui participe au gouvernement. Il avait été élu précisément sur la ligne de la participation. Je n'ai pas le sentiment que Bruno Retailleau est un godillot et je ne pense pas que les Républicains s'opposeront à la confiance au Premier ministre ou demain voteront la censure. Mais je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que les Républicains eux seuls peuvent gouverner demain ? Personne ne le croit un seul instant. Et je vais vous dire même, je pense que, parce que c'est ça qu'il faut préparer la prochaine présidentielle, celle de 2027, il faudra gouverner autrement, chercher des coalitions. Il n'y aura pas d'autre solution. C'est même la société française qui l'attend et qui le veut. Donc je pense que ce n'est pas le moment, je pense, très sérieusement, moi je suis au gouvernement, c'est pas le moment d'en rajouter. Le moment, c'est de trouver les solutions, les compromis, et en tenant compte, évidemment, des avis, des propositions de chacun.
Annie Genevard, des Républicains, ce matin, c'est dans le journal du dimanche, elle n'a pas l'air très déterminée à gouverner avec la gauche. Mais justement, on va explorer avec Françoise Fressoz le casting. Qui, si on se place dans l'après-Bayrou, Françoise ? Question à Manuel Valls.
Là, ce qu'on voit, c'est comme la grande impossibilité de conclure en l'état actuel avec le PS et risque de fragilisation de ce qu'on appelle le bloc central avec les propos de Laurent Wauquiez. Qui, si jamais pas de confiance à François Bayrou, pourrait reprendre le flambeau le mieux possible dans cette situation invraisemblable ?
Mais François Fressoz, je ne suis pas journaliste, encore moins devin. C'est-à-dire que moi, je suis fidèle, loyal au Premier ministre. C'est lui qui m'a proposé de venir au gouvernement. Nous nous connaissons depuis longtemps. J'ai à la fois de l'estime et je salue son courage. C'est extrêmement difficile de gouverner en général. J'en sais quelque chose, mais c'est encore plus difficile de gouverner sans majorité absolue. Oui. Donc, pour le moment, moi, je m'en tiens, évidemment, à ce rendez-vous du 8.
Mais
oui, fidélité et prudence.
Mais on a plein de noms qui, sur
la situation actuelle, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux un Premier ministre de gauche, Cazeneuve peut-être, ou quelqu'un du bloc central qui pourrait être plus en dialogue que ce que fait François Bayrou aujourd'hui ?
Mais si je commençais à donner des noms, d'abord ça serait évidemment tout à fait inconvenant à l'égard de François Bayrou, et en plus je pense que je n'aiderais pas ceux ou celles qui pourraient accéder éventuellement à cette fonction. D'ailleurs, en passant, je ne sais pas ce qu'a dit Annie Genevard, pour qui j'ai beaucoup d'estime, on travaille très bien ensemble sur les Outre-mer, la ministre de l'Agriculture, mais elle est déjà avec des gens de gauche au sein du gouvernement. François Rebsamen, Éric Lombard, Elisabeth Borne, elle vient de la gauche, Juliette Méadel, votre serviteur.
C'est pas,
de
c'est
toute
pas
façon,
le cœur du PS
ils
aujourd'hui.
Ils ne vont pas gouverner seuls les Républicains, ils ne vont pas gouverner seuls les socialistes. Le bloc central n'a pas la majorité absolue. Et demain, ça ne sera pas le cas non plus. Donc, il faut trouver, encore une fois, les conditions d'un accord entre les uns et les autres. Et
Alex,
c'est moins le nom. J'espère que François Bayrou continuera. C'est moins le nom de la personne que cette capacité à discuter, à négocier, à trouver les compromis et à s'élever au niveau
de la
responsabilité qui est la nôtre par rapport au problème du pays.
Est-ce que Catherine Vautrin, est-ce que Sébastien Lecornu, est-ce que Gérald Darmanin aurait cette capacité à pouvoir négocier, notamment avec la gauche ?
Et c'est tous des gens formidables, que je vous dise, mais pour le moment, il y a François Bayrou qui est Premier ministre.
Et comment vous expliquez le silence de la gauche aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'il y a un an, on entendait c'est Lucie Castet, nous sommes arrivés en tête, ça doit être quelqu'un issu de la gauche, ça doit être Lucie Castet. Aujourd'hui, il donne un éventail, mais il ne se risque plus à donner le moindre nom.
Non, mais
est-ce qu'ils ont envie de Matignon, la gauche, aujourd'hui ?
Moi, je lis des interventions, des prises de position. J'écoutais Jérôme Gadge ce matin sur une autre antenne. Des propositions du Parti Socialiste, la volonté d'être responsable et de participer, non pas au gouvernement. Ils ont fait une offre, bien évidemment, mais il faut être aussi réaliste par rapport aux chiffres de l'Assemblée nationale. Mais enfin, en tout cas, de trouver une solution. En quoi le Parti Socialiste serait-il intéressé, enfin, je pose cette question, par une dissolution? Est-ce qu'aujourd'hui le nouveau Front Populaire trouverait une part de l'élan qu'il a eu il y a un an?
Non. Mais la dissolution n'est pas inéluctable. On peut changer de Premier ministre sans dissolution.
Oui, mais il faut éviter que le prochain Premier ministre, si c'était le cas, et de toute façon la question se poserait aussi pour François Bayrou au moment du budget, ne tombe pas. Parce que alors si vous avez un autre Premier ministre qui tombe au moment du budget, c'est sur une motion de censure après un 49-3, par exemple, c'est fini. On va forcément, enfin, c'est au président Manuel de la République Valls de décider. C'est évidemment de sa prérogative. Mais si tous les mois, il y a un nouveau Premier ministre qui tombe, enfin, ça n'a pas de sens. Et là, c'est évidemment la crise de régime. Mais j'ai cru comprendre, mais vous analysez mieux que moi ces questions-là, que la gauche ne peut pas être unie sur des questions... sur la vision du monde, sur des problématiques de valeur, sur le programme économique et même sur l'idée de gouvernement et d'aborder cette période, la différence est abyssale. Je vous renvoie à ma théorie des gauches irréconciliables entre LFI et le Parti Socialiste. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas trouver un compromis avec les socialistes, avec les écologistes, avec les communistes. Moi, je le trouve sur des sujets ultramarins et sur la préparation de la loi contre la vie chère. Je pense que c'est possible avec eux.
Un compromis sur le budget, mais tout ça dans un contexte social.
Il y a deux types de compromis. Il y a les questions de fond, c'est-à-dire que chacun se sente... C'est arrivé il y a quelques mois avec le Parti Socialiste à l'occasion de la dernière loi de finances. C'était une des réussites de François Bayrou et de son équipe avec Éric Lombard et Amélie de Montchalin.
Des concessions à plusieurs milliards.
Eh bien, il ne peut y avoir que des concessions. Ça ne peut pas être le tout ou rien. Il faut trouver des solutions qui, évidemment, tiennent compte de l'état du pays et des finances.
Alors justement,
et sociales, qu'on ne peut pas nier.
L'état du pays, c'est quand même une petite musique de grondement social. Il y a le mouvement Bloquons tout le 10 septembre. Il y a un appel à manifester des syndicats le 18 septembre. Est-ce que cette grogne sociale vous inquiète? Certains parlent de gilet jaunisation qui ressurgirait. Qu'en pensez-vous?
Il n'y a pas une grogne sociale. Il y a une colère profonde. Il y a un rejet du peuple français à l'égard des responsables politiques, des élites. Il y a une très profonde inquiétude par rapport à ce qui se passe dans le monde, sur le changement climatique. Sur les questions de sécurité et d'immigration, mais d'abord sur la question centrale qui est celle du pouvoir d'achat. Et les Français
seront demandés aux entreprises et aux plus aisés, ou alors renier le modèle social.
Il y a une volonté de justice sociale, bien évidemment. Donc, chez nos compatriotes, ils peuvent à la fois vouloir que tout change et en même temps être extrêmement inquiet sur le chaos politique qui pourrait intervenir. Donc, il faut écouter, évidemment, ce qui se passe dans le pays. Mais la meilleure manière, à mon avis, d'écouter, ou plutôt de répondre à cette attente, c'est d'être responsable. Je vais être très cash et très clair. Pas parce que les Français veulent aujourd'hui une dissolution, voire une démission du président de la République, qu'il faut suivre. Moi, je suis un responsable politique, une expérience avec des réussites et des échecs. J'étais populaire, j'étais très impopulaire. Aujourd'hui, je gouverne, mais je me dois de prendre un peu de recul. C'est l'état du pays nous oblige non pas à provoquer les élections. En plus, dans ce moment-là, au moment où il faut préparer un budget, au moment où Poutine intensifie les bombardements en Ukraine.
Dissolution.
Pardon ?
Il a quand même écarté le fait de dissoudre l'Assemblée nationale.
Le président de la République l'écarte, mais il n'a pas pour autant renoncé à ce droit qu'il a retrouvé depuis début juillet. Mais si la situation politique, si les premiers ministres tombent à répétition parce qu'on n'a pas trouvé un accord, un compromis sur notamment la loi des finances, il n'y aura pas d'autre solution que de provoquer les élections.
Mais
et alors, encore une fois, parce que tout ça, nous subissons les conséquences de la précédente dissolution, enfin de la seule dissolution que nous avons connue jusqu'à présent, au cours de ce quinquennat. Et donc, du coup, l'instabilité que nous connaissons, elle va se poursuivre. Donc, il faut encore une fois, si on veut éviter le suicide collectif, il faut un sursaut politique de responsabilité, d'être à la hauteur du moment.
Mais je voudrais quand même revenir sur justement les Français, sur cette grogne sociale. On voit notamment sur les réseaux sociaux certains mouvements émerger. Il y en a un qui est assez frappant, qui s'appelle, j'imagine que vous le connaissez, Nicolas qui paie. Hein, c'est le fait de dire ben, finalement que ce sont toujours les mêmes qui paient, ce sont les actifs, et que il y a aussi des gens ben, qui ne font rien, et que finalement le travail ne paie plus. Comment on répond à cette question ?
C'est une question qui est au cœur de tous les débats depuis déjà un certain nombre d'années. Il y a évidemment la question de l'emploi, et des efforts ont été faits ces dernières années. Il y a eu une baisse du chômage, il faut toujours le rappeler. Il y a la problématique des salaires, et donc ça c'est avec évidemment les partenaires sociaux qu'il faut continuer à travailler pour trouver des solutions. Il y a la question de l'impôt sur le revenu et de son assiette. Donc il faut là aussi des réformes. Moi j'ai défendu, je sais que je serai tout de suite démenti et on dira que ça n'est moi qui pense que cela, je vous l'accorde, mais je pense que sur la question de la piste de ce qu'on a appelé proprement la TVA sociale qui a été défendue aussi bien à droite qu'à gauche au cours de ces dernières années, il y a des pistes. Bref, il y a des moyens, pas faciles, et dans le temps, et des efforts collectifs et continus qui peuvent être apportés aux Français, même si ensuite il y a des questions beaucoup plus lourdes. En allant à Autun précisément en voiture, quand on voit tous ces paysages du centre de la France, on voit tous ces petits villages avec les panneaux renversés, avec des panneaux qui disent « nous attendons des médecins parce qu'il n'y en a plus », une crise des services publics, des bouleversements qui ont touché notre agriculture. Donc l'équilibre Autun, entre agriculture et environnement, toutes ces questions font partie des changements. Mais, ce que je peux rajouter, nous sommes un pays, en même temps, très riche par rapport à d'autres.
Les boomers sont riches. Est-ce que c'était une bonne idée ? Est-ce que c'était une bonne idée de dire que la dette, c'est pour le confort des boomers ?
Mais la dette, elle pèse aujourd'hui sur le pays, donc sur ceux qui travaillent aujourd'hui, mais elle pèsera encore davantage, si nous ne faisons rien, sur les futures générations. Je le disais tout à l'heure, François Bayrou a le mérite, c'est pas le premier, c'est pas des débats qui n'auraient jamais eu lieu, mais de poser ces questions. Mais ce que je veux dire, nous sommes
Philippe
un pays riche,
très
puissant, industriel. Nous avons des moyens, des capacités, on produit de la richesse, on voit bien qu'il faut produire davantage, travailler plus ou travailler mieux. On voit bien que l'impôt sur le revenu pèse que sur une partie des Français. Donc, sur toutes ces questions-là qui ont peut-être trop tardé, je vous l'accorde aisément, il faut avancer. Ça sera incontestablement le grand débat de l'élection présidentielle qui doit avoir lieu en 2027, pas avant.
Sauf qu'on se demande si c'est pas déjà trop tard, on a l'impression que tout craque, c'est-à-dire que l'État-providence est en train de craquer, que toutes les solutions proposées sont rejetées. Quelle est la nature de la crise qu'on vit aujourd'hui ? Est-ce que c'est une crise politique, sociale ? Est-ce que ça peut être une crise institutionnelle ? Et est-ce qu'il y a quand même un tout petit chemin pour l'éviter aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on va vers le grand craquage ?
Avant votre réponse, Manuel Valls, je voudrais qu'on écoute justement Jordan Bardella, le Rassemblement National, dont vous nous avez beaucoup parlé depuis le début de cette émission, qui juge que, comme Édouard Philippe, que la dissolution est inéluctable.
Le fait de ne pas vouloir dissoudre l'Assemblée nationale au moment où on se parle ne veut pas dire qu'il n'y soit pas contraint à un moment donné, tant les blocages pourraient subsister au sein du Parlement. Donc moi je suis venu dire aujourd'hui à nos compatriotes que la stabilité des institutions, la stabilité du pays est possible. Mais qu'aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir sont des facteurs d'instabilité, tant les politiques qu'ils mènent et les choix qu'ils ont faits sont contestés par les Français. Et il est évident que dans la situation actuelle, je ne vois aucune autre solution que de se tourner vers les Français. On ne peut pas tenir 2 ans comme cela.
On ne peut pas tenir 2 ans comme cela, tout craque, dit François Fressoz, Manuel Valls.
Et François Fressoz a raison, il y a une crise, alors nous ne donnons pas raison à Jordan Bardella, mais je réponds à la question de François Fressoz. Il y a sans doute une crise profonde sur la capacité du politique à agir, à transformer les choses, à répondre aux attentes de nos concitoyens. Au fond, une forme de crise de l'impuissance, mais qui touche toutes les démocraties occidentales. Et donc ça oblige à une remise en cause assez profonde de ce qu'est la droite, la gauche et de ce qu'on est capable de produire en termes d'idées depuis des années. Il y a une crise propre à la France. C'est l'État qui a construit la nation. Or, on voit bien que les grands piliers de l'État, que sont l'école républicaine, les questions de sécurité, et évidemment la problématique de la santé, notamment de l'hôpital public, sont aujourd'hui touchés par cette crise. Donc on voit bien qu'il faut reconstruire, réhabiliter, réformer ces services publics sans les remettre en cause dans leur fondement, mais qui nécessitent des réformes. Donc il faut des réformes profondes de l'hôpital, de l'assurance maladie, du système de retraite. Mais tout ça oblige à un discours de vérité et de réforme. Est-ce que c'est facile aujourd'hui depuis la dissolution? Non. Mais ne donnons pas raison. Lui, Jordan Bardella, il est dans son rôle.
Mais est-ce que ça peut
accéder
tenir,
au pouvoir.
Est-ce
mais
que
ne
ça
leur
peut
donnons
tenir.
Pas raison. Ne leur donnons pas de nous-mêmes, tout seuls, le pouvoir, alors qu'ils ne sont pas prêts, alors que leur programme économique. On l'a vu pendant d'ailleurs les élections législatives de l'année dernière. Les Français se sont prononcés. Il y a un an, ils n'ont pas cru dans le projet économique et social. On ne sait pas quelles sont leurs positions sur les retraites, sur la réduction des déficits publics. Parce qu'enfin, il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est difficile de réduire les déficits publics quand les priorités, et c'est le cas de gouvernement, sont la défense. On a prévu en deux ans 6,5 milliards supplémentaires pour l'effort de défense par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie. On demande à juste titre davantage de moyens à la police, à la gendarmerie et à la justice. Donc, et l'école doit toujours être une priorité. Donc comment on fait? Donc ça veut dire que l'effort doit porter sur l'hôpital, sur l'assurance maladie,
oui, mais,
mais aussi
ça
faut
fait
trouver
en effet
de nouvelles
des
recettes.
Années. Ça fait en effet des années qu'on entend.
Oui,
cela.
Mais je me permettais un mot là-dessus. Moi, j'ai pas tout fait bien, et il semblerait qu'en 2017, les Français nous ont sanctionnés et n'ont pas beaucoup aimé de la manière dont on a gouverné. Mais l'idée que on a tous fait tout mal, que ça a été une catastrophe, qu'on a mal géré. Pardon,
c'est
le déficit,
de la lassitude qu'on entend dans la bouche des Français.
Je le sais, et vous avez tout à fait raison. Le déficit de la sécurité sociale, en 2017, devait être à 5 milliards d'euros. Le déficit public, quand nous avons quitté, c'est Bernard Cazeneuve qui m'avait succédé pour les derniers mois du quinquennat de François Hollande. Enfin, c'est ce que nous avions préparé dans la loi de finances. Le déficit en 2017, il était de 2,6%, seulement en dessous des 3%. Et la dette, elle était de 97% du PIB, 2200 milliards. C'est pas un exploit. La situation était déjà très difficile avec la crise qu'avait dû affronter Nicolas Sarkozy.
Ce que vous dites,
Sarkozy.
C'est que c'est possible. C'est ça que vous dites.
Et je dis que c'est possible et que j'en ai un peu marre, mais je sais bien que je suis contre l'immense opinion des Français qui trouvent que les politiques sont incompétents, corrompus et sont pas capables de répondre à leurs besoins. Eh bien, moi, tant que je crois en la démocratie représentative dans ce qu'elle est, quitte à aller contre tout ce que vos auditeurs et téléspectateurs sont en train d'entendre ou de regarder. Non, je dis que c'est possible. Et je dis la solution pour des raisons de valeur, pour des raisons liées à la situation géopolitique et par rapport à leur programme, ne peut pas être le Rassemblement National. Mais, c'est pour ça que j'ai parlé de suicide politique, ne leur donnons pas gratos, vous me permettez cette expression un peu familière, le pouvoir. Et pour cela, ça oblige à un sursaut de responsabilité.
Si
il n'y a pas d'autre solution.
Même si les Français le veulent, hein, puisqu'en tout cas, concernant la dissolution, 63% des Français sont favorables à une deuxième dissolution, ça c'est un sondage récent IFOP, contre seulement 41%
mais vous
en juin.
En 2024.
Non, mais vous voyez,
on ne peut pas gouverner seulement à travers les sondages.
Je vais vous la faire courte, Manuel Valls. François Bayrou est le Premier ministre le plus impopulaire de la 5e République.
Donc
comment on fait on voit bien qu'il joue le peuple contre les partis politiques. Ça ne le fait pas, comme on dit.
On ne doit jamais jouer le peuple contre les partis politiques et leur représentativité, ni contre les partenaires sociaux. Vous me parliez des mouvements sociaux qui arrivent. Il y en a un dont je ne connais pas tout à fait la nature. Celui du 10 septembre à travers des réseaux sociaux. Bon, très bien, ça fait partie aussi de ce qu'est aujourd'hui la démocratie politico-sociale et évidemment de sa crise et puis de toutes les manipulations possibles. Je me réjouis d'une certaine manière pour la démocratie sociale que les syndicats prennent leurs responsabilités le 18 septembre parce que c'est avec eux qu'il faut discuter. Il n'y a pas d'autre choix. Sinon, écoutez, les partis, les syndicats, la presse, toutes les institutions seront balayées.
Manuel
Regardez
Valls,
ce qui se passe aux États-Unis. Donc faisons très attention.
Que répondez-vous à ceux qui souhaitent, plus que la dissolution, qui souhaitent le départ d'Emmanuel Macron et qui considèrent que finalement, si on en est là, depuis deux ans, s'il y a cette instabilité façon 4e République, c'est peut-être la tête de l'État qu'il faut changer.
Il y a une forme de 4e République aujourd'hui dans la 5e République, oui. Il y a les conséquences, bien évidemment, de la dissolution et peut-être même des leçons qui auraient dû être tirées de l'élection présidentielle de 2022. Il aurait fallu trouver sans doute une coalition, mais c'est facile de donner aujourd'hui des leçons aux uns aux autres. Mais je réponds à votre question. Je suis très attaché aux institutions de la Ve République, évidemment à la fonction du président de la République. Et Emmanuel a parfaitement raison de dire que ça n'est pas discutable, ça n'est pas négociable. Parce que ça serait...
Son mandat jusqu'au bout.
On rentre dans un... sauf si lui décidait de le mettre en jeu sur, je ne sais quoi, un référendum ou des élections. Mais ça n'est pas ce qu'il a décidé, ce n'est pas ce qu'il a annoncé. Et on rentrerait alors dans un précédent extrêmement dangereux. Et c'est ça que je veux éviter, c'est-à-dire la crise de régime ou le suicide collectif. Vous savez, nous sommes dans ces moments, sans doute, moi, vous savez, j'adore l'histoire, j'en suis passionné, elle nous apprend beaucoup de choses, elle balbutie parfois. Ces moments, l'entre-deux-guerres, la fin des années 50 ici, c'est-à-dire des moments, je compare pas hein, les situations des individus, mais où tout peut basculer. Et quand vous êtes dans ce moment-là, il faut faire très attention, il faut en appeler la responsabilité, en tout cas, c'est le fruit de mon expérience.
France Inter. Alexandra Ben Saïd. Question politique.
Manuel Valls, vous êtes l'invité de Question politique, ministre en responsabilité des Outre-mer dans un gouvernement qui n'a peut-être encore qu'une semaine à vivre. Et ancien Premier ministre socialiste, on l'a dit, c'est un long parcours politique avec Alix Bouyaguet. On va essayer de mieux savoir qui vous êtes en 2025.
Encore ? Oh là là, on va essayer. D'abord, le point de votre retour, hein, si vous êtes entré au gouvernement, c'est pas grâce à Emmanuel Macron, il voulait pas de vous, hein, parce qu'il y a eu plusieurs...
Enfin, il m'a nommé quand même.
Hein. Il vous a nommé, mais sur proposition, effectivement. Effectivement, de François Bayrou, qui lui, pour le coup, avait vraiment votre nomination en tête à l'Outre-mer depuis longtemps, et depuis même, avant même, sa propre nomination à lui. Pour reprendre votre expression, est-ce qu'entre Emmanuel Macron et vous, c'est irréconciliable ?
Non, parce que vous savez, je suis ministre de la République, il est le chef de l'État, il est le président, donc sur beaucoup de sujets, nous sommes amenés à travailler ensemble. Puis nous connaissons depuis longtemps, vous savez...
Vous qui l'avez quand même mis au gouvernement de François Hollande.
Le 25 août, le 25 août 2015, 14, il y avait une petite crise gouvernementale, pas de la même nature que celle que nous avons aujourd'hui. J'avais demandé d'ailleurs un vote de confiance à l'Assemblée nationale et auparavant, nous avions avec François Hollande reformaté le gouvernement avec le départ d'Arnaud Montebourg et Benoît Hamon et l'arrivée d'Emmanuel Macron.
Mais il n'a pas la reconnaissance du ventre, Emmanuel Macron.
Non, mais vous
voyez
quel génie stratégique qui était le mien. Donc je pensais peut-être déjà à ce qui pouvait arriver. Non, je plaisante. Mais vous savez, la vie politique, elle est ce qu'elle est. Moi, je travaille avec Emmanuel Macron. Nous avons d'ailleurs une relation personnelle, je le dis, extrêmement fluide. Et moi, je suis très respectueux des institutions. Après, chacun connaît les accords, les désaccords que nous pouvons avoir. J'ai un accord avec lui qui est très important pour la suite, qui est le fait du dépassement politique. Mais ce dépassement politique, il doit être basé sur des coalitions. C'est le grand débat de 2027.
Un mot encore sur vous, sur l'homme le plus détesté à gauche. Hein, pour les socialistes, vous êtes devenu radioactif.
À l'époque.
Et c'est vrai que vous avez connu des invectives, des agressions, on se souvient de cette gifle que vous avez reçue en janvier 2017, des moqueries à chaque formation de gouvernement. Vous répondez quoi à ceux qui disent que finalement vous auriez vendu votre âme au diable pour obtenir un strapontin. Et le corollaire, c'est est-ce que c'est pas dur à vivre tout ça ? Est-ce que vous dites, la politique, je continue d'y croire et je continue d'avoir envie d'en faire ?
D'abord, servir son pays est toujours quelque chose d'incroyable. Ensuite, j'ai un ministère vraiment de mission où je me suis engagé j'y suis d'ailleurs demain matin, pour redresser Mayotte après le cyclone Chido, pour mettre en place cette loi contre la vie chère, on en dira peut-être un mot, et évidemment pour trouver le chemin de la paix civile en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, votre commentaire, je croyais que vous allez me dire le contraire, parce que depuis quelques mois, notamment à travers le dossier de la Nouvelle-Calédonie, je sens des commentaires très agréables venant de gauche. Tout ça, c'est la surface des choses.
On va en parler.
Tout ça, c'est le bruit médiatique. Ça ne m'intéresse pas.
C'est derrière vous êtes en forme de rédemption ou vous avez fini votre traversée du désert ?
Je suis profondément républicain et laïque, donc je fais attention à la rédemption. Mais il y a eu des hauts et des bas dans la vie politique. Il y a eu des réussites et des échecs. J'ai évidemment commis, sans aucun doute, des erreurs. Mais je sers mon pays. Est-ce que je le fais bien ou mal ? C'est là-dessus que je dois être jugé sur les dossiers de cette mission concernant ces territoires d'outre-mer qui ne vont pas bien avec cette distance qui s'est créée entre cette France ultramarine et l'Hexagone. Est-ce qu'on est en train de réussir à trouver un chemin de paix en Nouvelle-Calédonie ? Est-ce que je me situe ou pas dans les pas de Michel Rocard, Lionel Jospin ? Oui. Bon, donc, après, le reste n'est que le commentaire, n'est que le bruit. Et moi, vous savez, je suis un républicain. Je crois dans ses valeurs, dans la laïcité. Je pense qu'être républicain, c'est croire aussi en la justice sociale. Voilà. Et donc, est-ce que les faits des événements sur la montée de l'antisémitisme, sur la violence dans le débat politique, sur les gauches irréconciliables.
On va y revenir.
Est-ce que sur tous ces sujets-là, les faits m'ont donné tort? Je ne crois pas.
Question politique sur France Inter.
Vous avez mentionné les territoires ultramarins et vous avez raison, et c'est Françoise Fressoz qui vous interroge.
On va parler de la Nouvelle-Calédonie et de la difficulté de trouver là-bas aussi un compromis. On a cru à un espoir au moment du projet d'accord de Bougival le 12 juillet, et puis patatras, à la mi-août, le congrès du FNLKS a dit non, on n'adhère pas à ce projet. Depuis, vous êtes retourné en Nouvelle-Calédonie. À combien vous estimez vos chances d'arriver à un compromis malgré la crispation actuelle?
Nous sommes dans ce compromis. Vous savez, la Nouvelle-Calédonie est un territoire passionnant parce que c'est une addition de communautés. Évidemment, il y a le peuple premier, le peuple autochtone, les Kanaks, il y a tous ceux qui sont arrivés depuis la prise de possession à la moitié du XIXe siècle, qui eux aussi ont trimé dur là-bas, les Européens. Il y a les Wallisiens, les Futuniens, il y a des Asiatiques. Donc, il y a un mélange de populations qui vous oblige à trouver un compromis entre ceux qui veulent l'indépendance et ceux qui veulent rester dans la France. Ça veut dire que c'est possible. C'est pour ça qu'il y a une fascination sur la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on se dit, tiens, c'est une forme de miroir très déformé à 18 000 kilomètres de Paris, mais dans lequel on peut peut-être parfois trouver des solutions. Deuxièmement, les forces politiques loyalistes, qui sont favorables à ce qu'on reste dans la France, nationalistes et centristes, je pense notamment à l'éveil océanien ou à Calédonie ensemble, et une grande partie des indépendantistes.
Avec... Une grande partie, mais il y a une partie qui dit par rapport aux accords de Matignon, signé par Michel Rocard, qui reste votre modèle, on est trahi parce qu'on en réalité on n'aura jamais l'indépendance.
Les vieilles formations qui avaient signé ces accords, je pense au Palika ou à l'UPM, soutiennent tous les soirs l'accord et sont extrêmement déterminés. Le FLNKS a décidé de désavouer la délégation conduite par Emmanuel Djibaou, mais le dialogue a repris. J'ai passé plusieurs heures avec ses nouveaux responsables, notamment Pierre Chanel Tutugourou. Donc on peut trouver les voies d'un accord sur un certain nombre de sujets, mais d'abord il faut que les formations politiques calédoniennes se parlent entre elles et trouvent aussi ces discussions. C'est ce qu'elles ont fait ces derniers mois. L'accord dit de Bougival signé le 12 juillet dernier, cet accord, il a une force incroyable dans la société. Les Calédoniens veulent la paix parce que le pays, comme ils disent, est par terre. Presque 3 milliards de dégâts avec les émeutes de mai 2024 et surtout des morts. Le sang a coulé de nouveau. Donc, moi, je mets toute mon énergie, ma connaissance du territoire, ma volonté de dialogue et je pense que, évidemment, si la situation politique que nous avons évoquée...
Plus de gouvernement dans une semaine, comment vous faites?
Je reconnais que c'est un des dossiers, mais moi, je reste là-dessus optimiste. D'ailleurs, je le dis très modestement. Vous savez, on dit en Calédonie, on dit avec respect et humilité. Donc avec beaucoup d'humilité, je dis aussi aux forces politiques nationales, attention, il y a le dossier de la Nouvelle-Calédonie. Donc, il faut repousser les élections provinciales. Ça, le Sénat a prévu de le faire à la fin du mois de septembre. Et engager, le président de la République, il fera bien évidemment, on le fera en Conseil des ministres, je l'espère, une réforme constitutionnelle qui permettra notamment aux Calédoniens de voter au mois de février sur cet accord. Pardon.
Il faut préserver ce calendrier.
Ça va. L'accord de Matignon et l'accord de Nouméa, ça signé par Lionel Jospin, est totalement préservé. L'identité kanak est préservée. Il y a quelque chose d'ailleurs, Françoise Fressoz, vous connaissez cela, de passionnant. C'est comment on réussit le processus de décolonisation. C'est lourd pour notre histoire, et y compris dans le rapport au monde, notamment dans le Pacifique où nous sommes présents, en Polynésie, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Donc, il faut réussir l'achèvement de ce processus de décolonisation. Le droit à l'autodétermination est toujours préservé, et on crée un État de la Nouvelle-Calédonie qui peut être reconnu au niveau international, qui aura sa nationalité sans qu'on perde la nationalité française, qui assumera des compétences internationales et qui aura sa loi fondamentale, sa constitution, et ça c'est possible avec la réforme constitutionnelle que nous allons faire. C'est pour ça que le FLNKS s'est aussi engagé dans cette discussion, même s'il y a des éléments au sein du FLNKS, notamment depuis plus d'un an et demi, qui ont toujours été d'ailleurs contre les accords de Matignon et de Nouméa, et qui pensent que c'est par la pression, parfois la violence, qui ne mènera à rien, qu'on pourra trouver la solution vers l'indépendance.
Si on échoue, il y a d'autres puissances étrangères, vous parlez de la République, il y a d'autres puissances étrangères que vous voyez déjà à l'action, c'est-à-dire ce processus de décolonisation, il se passe dans un contexte géopolitique où d'autres pourraient vouloir prendre notre place.
Dans le Pacifique, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a fait de la stratégie Indo-Pacifique une grande priorité, et je suis d'accord avec lui, parce que dans le Pacifique, c'est là où on voit l'affrontement des deux grandes puissances du XXIe siècle, la Chine et les États-Unis d'Amérique. Oui, la Chine progresse dans son influence sur tous les petits États du Pacifique. Derrière, vous avez la Russie et l'Azerbaïdjan qui cherchent à déstabiliser, y compris une partie très minoritaire des indépendantistes. C'est vrai en Polynésie, c'est vrai en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai aussi dans l'océan Indien, on voit bien les pressions qu'il y a sur Mayotte où je me rends demain. Oui, la Russie et l'Azerbaïdjan jouent là-dessus. Mais ça a toujours un peu existé. Hein. Avant, c'était l'URSS ou la Libye. Donc, il faut tenir bon. Et l'image de la France, aussi, dans le Pacifique, passe par la restauration de la paix et la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Donc là, nous avons aussi un beau message à délivrer dans cette région du monde.
Alors, Manuel Valls, le décolonisateur, il est prêt à aller à très très loin sur la Nouvelle-Calédonie. Mais sur la Corse, alors là, vous êtes complètement raide. Vous dites non, une autonomie dans la République en faisant entrer la notion de communauté insulaire, pas question. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi crispé sur la Corse alors que sur la Nouvelle-Calédonie, vous ouvrez le jeu?
Parce que j'ai jamais accepté la comparaison entre les territoires ultramarins qui souffrent soit d'avoir été une colonie de peuplement, la Nouvelle-Calédonie, comme l'Algérie, et une colonie pénitentiaire, ou qui vivent encore avec les morsures de l'histoire, et notamment de l'esclavage, c'est vrai dans les Antilles, c'est vrai en Guyane ou à La Réunion. Donc les situations sont totalement différentes. La Corse fait partie de notre ensemble métropolitain depuis toujours. Elle a donné lieu à des hommes, je veux dire, à des grands chefs d'État, évidemment très critiquables dans bien des domaines, notamment la restauration de l'esclavage aux Antilles. Je pense bien sûr à Napoléon Bonaparte. Donc c'est une autre histoire. La Corse a déjà énormément de compétences, de pouvoir. Je suis pas contre le fait qu'elle ait encore plus d'autonomie. C'est moi, avec Jean-Michel Baillet, quand il était ministre de l'Aménagement du Territoire, qui avons fait que la Corse a une collectivité unique. Il n'y a plus de région, il n'y a plus de département, il y a une seule collectivité qu'elle exerce pleinement ses pouvoirs, qu'il y a une place de la Corse dans la Constitution, mais ça ne me choque pas. Mais je dis attention aux mots qu'on utilise dès qu'il s'agit des départements, des régions, des territoires qui forment la France historique. Le rapport à l'outre-mer, qui est un rapport puissant, je pense évidemment aux Antilles, à La Réunion, est d'une autre nature, même si beaucoup là-bas, la grande majorité, sont profondément attachés à la France.
Manuel Valls, je vous emmène sur un autre fait d'actualité qui fait partie de vos combats, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Cette semaine, on a eu l'ambassadeur des États-Unis qui a été convoqué au Quai d'Orsay. Il a envoyé une lettre lundi au chef de l'État dans laquelle il dit deux choses. Monsieur Kushner, il dit qu'il y a une flambée de l'antisémitisme en France et surtout, il dit qu'il y a une absence d'action suffisante du gouvernement français, je le cite. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que sur ces deux points, est-ce que vous êtes inquiet de la flambée contre l'antisémitisme? Et est-ce que finalement, la France en fait assez?
Moi, je suis inquiet de la flambée de l'antisémitisme depuis des années aux États-Unis. La montée de l'antisémitisme.
Là, vous bottez en touche, cependant.
Je vais venir, on l'a vu dans les universités,
sans doute.
On l'a vu dans la société américaine, en plus avec leur vision, et d'ailleurs elle est respectable, de la liberté de parole, la parole antisémite, nazie, fasciste, progresse aux États-Unis. Mais je reviens à votre question. Donc, je veux dire, parce qu'il faut quand même regarder ça. Je me rappelle dans un colloque que nous avions eu il y a quelques années à Jérusalem sur la montée de l'antisémitisme, j'avais alerté sur ce qui pouvait se passer dans les autres pays. Les pouvoirs publics en France, depuis déjà de nombreuses années, ça a été vrai avec mon gouvernement, ça a été vrai avec les gouvernements suivants, c'était vrai aussi avec Nicolas Sarkozy, ont mobilisé les outils juridiques, évidemment la police et la gendarmerie, et donc la justice, ont renforcé les dispositifs législatifs pour lutter contre l'antisémitisme. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas l'action de l'État, on peut toujours mieux faire les choses, mais on voit bien dans les programmes scolaires, on voit bien dans la réaction, regardez ce qui s'est passé, la réaction à cette attaque contre ce monument en la mémoire de Ilan Halimi à Épinay,
les oliviers,
sur cet olivier. Et toutes les villes maintenant plantent un olivier pour rappeler sa mémoire.
Ce jeune juif torturé.
Regardez la réponse très rapide de la justice par rapport à cet individu qui avait empêché des Israéliens de rentrer dans un parc d'attractions. Bon, donc,
il a été mis en examen il y a quelques jours.
La société française, elle est là, elle réagit, mais on voit bien qu'il y a un débat beaucoup plus douloureux qui existe depuis des années, et la vague, le tsunami antisémite, je ne sais plus si c'est le bon mot, anti-juif, de haine des juifs, lié d'ailleurs à Israël, il n'a pas commencé il y a 3 mois, il a commencé le 7 octobre au soir. donc le 7 octobre 2023, le soir même des attaques effrayantes contre Israël. Et on voit bien que derrière cela, il y a un rapport, une dégradation, je ne sais pas si c'est le bon mot non plus d'ailleurs, quelque chose qui se passe entre le monde juif français et la société française. Et je l'avais dit en 2015, parce que déjà la question se posait, si les Français juifs partent de la France, alors à ce moment-là, nous perdrons une partie de ce qu'est notre histoire, notre culture, notre âme, notre identité, de ce que nous sommes. Et j'avais dit, et je crois que c'est toujours vrai, que la France sans les Français juifs ne serait plus la France. Donc, nous sommes dans un débat qui va bien au-delà de la question de l'antisémitisme. Et parce que c'est le combat de ma vie, l'un des combats de ma vie, parce que je suis en première ligne sur ces questions-là depuis des années, ça m'a d'ailleurs coûté cher, parce que j'ai considéré que ceux qui, d'une manière ou d'une autre, participaient à alimenter, c'était le cas de la France insoumise, cette vague anti-juif, ne pouvaient pas être considérés de gauche et avec qui on ne pouvait pas former des alliances. Ça m'a coûté cher, ça a coûté cher à Jérôme Guedj, il y a bien d'autres. On doit continuer. Voilà, donc il y a quelque chose là qui est d'assez fondamental et qui se joue et qui va bien au-delà des moyens de lutte contre l'antisémitisme et même de ce qui se passe au Proche-Orient.
Merci Manuel Valls, invité de Questions Politiques, ministre des Outre-mer. Merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir été sur le plateau. Merci aux artisans de l'ombre de cette émission, Fabienne Lemoal, Alexandre Gilardi, Amaury Baucher et nos deux équipes du son comme de l'image. Auditeurs, téléspectateurs, nous vous souhaitons un excellent dimanche. On se retrouve la semaine prochaine. Nous serons à la veille du vote de confiance.